Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, état d'alerte maximale pour Paris et sa proche banlieue. De nouvelles restrictions seront annoncées en fin de matinée et entreront en vigueur demain. Règles renforcées dans les restaurants, fermeture des bars, nouvelles jauges dans les amphis. Le détail, Agnès, dès le début du journal, après les autres titres.
Un spectacle de désolation et 950 pompiers toujours mobilisés dans l'arrière-pays niçois pour évacuer les rescapés des violentes intempéries. La parole aux accusés au procès des attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher. Quand des livreurs à vélo bordelais créent une coopérative pour concurrencer les géants américains. Et puis Hugo Gaston, roi de l'amorti et nouveau chouchou du tennis français.
Les invités d'Inter ce matin à 7h50, Léa.
Les Calédoniens ont dit non à l'indépendance hier lors du deuxième référendum sur la question. Ils ont dit non, mais de justesse. Les indépendantistes progressent. Le gouvernement a-t-il eu peur? Comment expliquer ce vote? Le ministre des Outre-mer, Sébastien Le Cornu sera avec nous à 7h50.
Et on se retrouve, Léa, à 8h20 pour le grand entretien de la matinale avec l'épidémiologiste Arnaud Fontanet. Il est directeur du département de santé globale à l'Institut Pasteur et membre du conseil scientifique. Vous pourrez dialoguer avec lui, 01 45 24 7000.
France Inter. Du rouge écarlate sur la carte de France. Paris et les départements des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis sont désormais considérés comme zones d'alerte maximale. L'annonce est tombée hier soir vers 21h30 et de nouvelles mesures contraignantes entreront en vigueur demain. Elles seront détaillées tout à l'heure en fin de matinée lors d'une conférence de presse conjointe de la maire de Paris et du préfet de police. Mais les principales mesures sont déjà connues, Soizigbourg.
Fini le café ou la bière, au bar, le gouvernement acte leur fermeture à partir de demain et pour 15 jours. Les restaurants, en revanche, peuvent rester ouverts, mais à condition de respecter un protocole strict qui sera détaillé aujourd'hui. On en connaît déjà certaines propositions, un carnet de coordonnées des clients, la distance d'1,50 m entre les tables ou la limitation du nombre de convives. Les restaurants fermés depuis une semaine à Marseille et à Aix peuvent rouvrir. Ensuite, pour les facs, la jauge en amphi et en salle de classe ne pourra pas dépasser 50% au maximum, soit un étudiant sur deux en cours en présentiel. Ça vaut aussi pour les villes situées en zone d'alerte renforcée. Pour Paris et la Petite Couronne, la maire de Paris, Anne Hidalgo, et le préfet de police, Didier Lallement, détailleront ces mesures dans une conférence de presse aujourd'hui à 11h30.
De son côté, la ministre du Travail doit rappeler aujourd'hui la nécessité de privilégier plus que jamais le télétravail dans les zones d'alerte renforcées et maximales. Des mesures justifiées par la progression de l'épidémie. Les trois critères sont largement dépassés à Paris et sa proche banlieue, avec notamment 550 cas de Covid pour 100 000 personnes chez les jeunes de 20 à 29 ans et 178 cas sur 100 000 pour les sexagénaires. Au niveau national, 1300 personnes sont actuellement en réanimation et le taux de positivité est à 8,2% contre 4,5% il y a encore un mois. À Marseille et à Aix, où les restaurants et les bars ont dû fermer totalement il y a une semaine, c'est au contraire le soulagement puisque les restaurants vont pouvoir rouvrir avec des règles sanitaires renforcées, mais les bars devraient rester fermés. Une distinction que conteste Frédéric Jean-Jean. Il est le secrétaire de l'UMI 13 et il assure qu'il n'y aura pas de consommation debout.
Ce qui posait souci, apparemment, c'était sur la vente d'alcool. Et disant les choses comme elles sont, l'attitude d'une clientèle étudiante et jeune, qui parfois s'affranchit allègrement de ces protocoles-là. De là venait la crainte. Ceci dit, vu que les établissements ferment tôt, rien n'empêche à ce que les cafés et les bars qui fonctionnent dans la journée puissent travailler. Parce que les gens qui vont travailler le matin, s'ils prennent un café, ils vont pas danser sur le comptoir. Enfin, c'est quand même quelque chose de facile à comprendre. De toute façon, la règle est simple. Je vais vous parler de mon établissement. Quelqu'un qui veut consommer debout, je ne le sers pas. On consomme assis à table. Donc, c'est au préfet de nous faire confiance. Et en même temps, il semblerait utile, ils ont aussi les moyens de contrôler ce qui est mis en place.
Le propos recueilli par Quentin Pérez de Tudela. A noter également que la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, considérée comme cas contact, va se mettre à l'isolement durant 7 jours. Aux États-Unis, Donald Trump est lui brièvement sorti de sa chambre hier soir pour un petit tour en voiture. Et un salut à ses partisans qui campent depuis 2 jours devant l'hôpital militaire près de Washington, où le président américain est hospitalisé depuis vendredi. C'est une aventure très intéressante. J'apprends beaucoup sur le Covid, a déclaré Donald Trump dans une vidéo publiée sur Twitter peu avant sa sortie inopinée. Ses médecins, qui ont finalement reconnu qu'il avait dû être placé ponctuellement sous assistance respiratoire, ont annoncé que Donald Trump pourrait regagner la Maison-Blanche dans la journée. Nous y reviendrons dans le journal de 7h30. Et pendant ce temps, à Wuhan, ville chinoise d'où est partie l'épidémie, la vie a repris son cours avec des festivités tout au long de la semaine pour célébrer la fête nationale du 1er octobre. premier vrai congé depuis la fin officielle de l'épidémie en Chine. C'est un reportage à Wuhan de Stéphane Pombrin.
Du haut de ses 2000 ans d'histoire, la tour de la grue jaune domine Wuhan et le fleuve Yangtze, le plus long fleuve d'Asie. Wuhan, épicentre de l'épidémie, est aujourd'hui envahi de touristes venus de toute la Chine. Zhang Meng est la responsable du site.
Nous avons 40% de visiteurs de plus que l'année dernière. Il y a actuellement 15 000 personnes par jour, en moyenne. Comme nous sommes toujours dans le cadre de la lutte contre l'épidémie, nous avons seulement une jauge de 50% par rapport à d'habitude. C'est toujours plein.
À Wuhan et dans la province du Roubaix, plus de 400 sites touristiques sont ainsi accessibles gratuitement, symbole d'une Chine qui a tourné la page de l'épidémie. Zhang Hua vit à plus de 2000 km de là. Elle vient pour la première fois visiter Wuhan.
C'était pas comme je l'imaginais. En fait, il n'y a rien d'inquiétant ici. Grâce aux visites gratuites des sites touristiques, on peut venir ici à la tour et visiter le jardin botanique et puis le parc. Tout est gratuit.
Seule contrainte désormais, il faut s'enregistrer avec un QR code avant de pouvoir entrer sur le site et porter un masque. Des contraintes qui font désormais partie de la vie quotidienne des Chinois. À Wuhan, Stéphane Pambrin, France Inter.
Il est 7h06, deux morts, Agnès, et une vingtaine de disparus. C'est le bilan encore provisoire des intempéries dans les Alpes-Maritimes.
72 heures après la violente et brusque montée des eaux dans les vallées de la Roya et de la Vésubie, la situation est toujours extrêmement difficile pour des centaines d'habitants. Comme à Saint-Martin-Vésubie, le village de l'arrière-pays niçois est toujours coupé du monde, les habitants n'ont pas d'eau, le réseau téléphonique reste capricieux et l'électricité a simplement été remise à la mairie et à la boulangerie. 38 maisons ont été arrachées par la rivière, au moins autant menacent de s'écrouler. Près de 250 habitants ont été évacués par hélicoptère, mais tous les volontaires n'ont pas pu partir. Reportage de l'envoyé spécial de France Inter, Thibault Lefebvre.
Il y a la pluie, le brouillard et puis la nuit qui tombe de plus en plus tôt et empêche les rotations des hélicoptères.
Clément, j'ai les deux personnes.
Devant. Alors quand une évacuation est annoncée, les candidats au départ se précipitent vers des pick-up. Direction la piste de décollage en contrebas du village. Les derniers hélicoptères de la journée n'arriveront jamais, faute de visibilité. Il fait nuit noire et Yann est fatigué.
On a eu un espoir de descendre à Nice en hélicoptère, mais la nuit est tombée très vite. Et puis il n'y a pas de communication entre les hélicos qui sont partis à Nice et Saint-Martin.
Pourquoi faut partir ?
Parce qu'il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'eau, et il commence à faire froid. Nous, on a encore notre maison, contrairement à certains, mais c'est plus vraiment habitable, quoi.
Yann et sa compagne Alison se sont inscrits pour les prochaines rotations, mais d'autres, comme Franck, ont choisi de ne plus attendre. Cet éleveur est parti à pied pour 3 heures de marche à travers la montagne.
Mes animaux, il faut bien que je les nourrisse. C'est mon travail, c'est ma vie. Ça fait 2 jours que je ne les ai pas vus, donc ils n'ont pas mangé, ils n'ont pas d'eau. On a tout perdu, là. Compliqué.
La situation pourrait s'améliorer aujourd'hui car le morceau de route arraché vendredi par les eaux a été sommairement réparé ce week-end et un premier convoi de voitures légères devrait pouvoir circuler dès ce matin à très faible allure.
Reportage de Thibault Lefebvre, envoyé spécial de France Inter dans les Alpes-Maritimes. Et ce matin, c'est le département de la Manche qui est placé en vigilance orange pour des pluies et inondations. Le début des interrogatoires des accusés au procès des attentats de janvier 2015. Ils sont 11 présents, poursuivis pour leur aide présumée aux frères Kouachi et à Hamidi Koulibaly. Le premier à s'exprimer cette semaine sera Willy Prévost. Son portrait, signé Sophie Parmentier.
Willy Prévost est presque aussi grand qu'un basketteur américain. Il a 34 ans, le crâne rasé, a grandi dans la même cité qu'Hamedi Koulibaly, dans l'Essonne. J'ai eu une enfance normale, 5 frères et une sœur, j'ai manqué de rien, résume-t-il. Son enfance a pourtant été marquée par une blessure par balle alors qu'il avait 9 ans. Il faisait du vélo, une balle perdue s'est logée derrière son abdomen. Puis, il est devenu agent d'entretien, déménageur et a fait un premier séjour en prison en 2004, une affaire d'armes qu'il transportait avec un copain. 10 ans plus tard, quel a été le rôle précis de Willy Prévost dans la préparation des attentats de janvier 2015? Il est accusé d'avoir aidé Hamedi Koulibaly à se procurer la voiture qui a servi à se rendre à l'hypercachère. Accusé aussi d'avoir retiré le traceur de la moto qui a été utilisé pour aller tuer la policière de Montrouge. Accusé encore d'avoir fourni des gilets tactiques, des couteaux, des gazeuses lacrymogènes, un taser. L'a-t-il fait sous la contrainte de Koulibaly, dont il dit qu'il était le souffre-douleur? Savait-il que des attentats se préparaient? C'est toute la question.
Et les comptes rendus d'audience sont à retrouver tous les jours sur franceinter.fr.
Il est 7h10, Agnès, contre l'ubérisation de la société. Un autre modèle est possible.
C'est ce que veulent montrer avec succès des livreurs à vélo bordelais pour échapper aux géants du secteur comme Uber ou Deliveroo et améliorer leurs conditions de travail. Ils se sont regroupés en coopérative. Yann Gallic.
Il y a 4 ans, Morgane Lamar a commencé à faire des livraisons à vélo pour les grandes plateformes, quelques heures par semaine en complément de son travail d'ingénieur au ministère de la Défense.
Les plateformes ont une fâcheuse tendance à tout écraser sur leur passage et les coursiers n'ont pas leur mot à dire. J'en avais marre et je me voyais pas travailler plus pour eux.
L'an passé, Morgane a rejoint les coursiers bordelais. Cette association transformée en coopérative a été créée par des livreurs à vélo qui voulaient sortir de la précarité. L'entreprise emploie désormais 6 coursiers, tous en CDI.
On est tous au SMIC, on arrive à se donner des primes régulièrement. On a tous une mutuelle, on a tous décidé de se donner 8 semaines de congés payés. Au lieu d'être une petite marionnette qui est guidée par un algorithme d'une plateforme, on prend, nous, toutes les décisions.
La coopérative s'est lancée récemment dans la livraison de repas, mais elle achemine surtout des colis, des marchandises, du matériel médical ou encore des fleurs, principalement pour les professionnels.
Nos clients, ils recherchent un service local, éthique. On a par exemple une grande enseigne de supermarché qu'on livre sur Bordeaux. Ils nous connaissent, nous on les connaît, il y a une vraie relation de confiance avec eux. Et avant, ces gens-là travaillaient avec une des plateformes très connues.
Aujourd'hui, les coursiers bordelais ont réussi à atteindre l'équilibre financier avec près de 120 000 euros de chiffre d'affaires l'an dernier.
Enfin, il a réussi à mettre une ambiance de feu devant des gradins aux trois quarts vides. Le jeune Toulousain Hugo Gaston, 239e au classement mondial, a enthousiasmé le central de Roland-Garros hier en 8e de finale face à l'Autrichien Dominic Thiem, numéro 3 mondial. Un match à le temps en 5-7, finalement perdu, mais où le joueur tricolore a usé de son arme de prédilection, l'amorti. Guillaume Batin.
Sur le terrain, Hugo Gaston est un créateur. Il cherche à embêter son adversaire avec un jeu très complet, une variation de zone, des changements de rythme, une balle pleine d'effets rétro, parfois très haute à la limite de la ligne. Et puis il y a ces amortis que certains joueurs utilisent parfois et que Hugo Gaston adore et maîtrise.
Depuis toujours, j'aime les petits jeux ou quoi, et les amortis, ça fait partie de mon jeu. Des fois, j'en fais peut-être un peu trop ou pas au bon moment. Mais voilà, j'ai gagné 70% de points apparemment. C'est un coup très important dans mon jeu.
L'amorti, arme fatale, un geste inné, accompagné d'un style incomparable. Marc Barbier, l'entraîneur de Hugo Gaston.
C'est dans son ADN de joueur, c'est son identité de jeu. Après, le comparer à d'autres joueurs, moi j'ai beaucoup de mal à le comparer à d'autres joueurs. Le challenge pour lui, c'est de mettre cette créativité au service de l'efficacité et qu'il ne tombe pas sur un excès de créativité qui finalement n'aboutit à pas grand-chose. Et quand il arrive à aligner efficacité et créativité, ça devient quelque chose de très agréable à voir, de très original et de très efficace.
En plus d'avoir un jeu très complet et atypique, Hugo Gaston a un physique sans faille. En moins de 48 heures, il a enchaîné 2 matchs en 5-7, sans la moindre baisse de régime.
Et la dernière tricolore en lice, Fiona Ferro, affronte aujourd'hui l'américaine Quenin pour une place en quart de finale.
Merci Agnès, c'était le journal d'Agnès Soubiran.